VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 4 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, un geste d'apaisement du président Paul Biya à la veille de la clôture du grand dialogue national sur la crise anglophone, la libération de 333 détenus.
Au Bénin, la présidence a invité l'ensemble des partis politiques à participer le 10 octobre à un dialogue politique avec le pouvoir en place.
En Côte d'Ivoire, 5 ans de prison ferme pour le président de région et vice-président du PDCI, Jacques Mangoua, un mort dans les protestations.
38 soldats tués, tel est le nouveau bilan des pertes subies par l'armée malienne dans l'attaque de deux camps par des djihadistes en début de semaine.
L'affaire ukrainienne après Kiev, le président américain Donald Trump appelle Pékin à enquêter sur son rival démocrate Joe Biden et son fils Hunter.
Journée de violence hier en Irak, on déplore 31 morts en 3 jours de manifestations contre des dirigeants qualifiés de corrompus.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, 333 personnes arrêtées et détenues dans le cadre de la crise anglophone recouvrent la liberté. Cette décision a été prise hier sur ordre du président Paul Biya à la veille de la clôture du grand dialogue national ouvert lundi à Yaoundé. Le point avec notre correspondant sur place, Emmanuel Juntap.
Les bénéficiaires de cet arrêt de poursuite judiciaire avaient été interpellés pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils étaient encore en détention et poursuivis devant les tribunaux militaires. Le président Paul Biya a ordonné qu'ils soient libérés sans délai en guise de soutien aux assises du Grand Dialogue National qui s'achève ce vendredi. Mentionne le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République publié à cet effet. Mais cette décision ne concerne pas le leader séparatiste anglophone Yuk Tabe et ses 9 collaborateurs arrêtés au Nigeria puis extradés au Cameroun avant d'être condamnés à perpétuité. Certains participants au Grand Dialogue National ont aussitôt réagi après la décision de libération de ces 333 détenus. Merci Monsieur le Président de la République pour cette décision qui touche tous nos cœurs et qui comble de joie tous les Camerounais, a écrit dans un tweet Grégoire Owona, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Cette décision est un acte personnel du président Paul Biya et non une résultante du Grand Dialogue National, a commenté pour sa part l'opposante Edith Kawala du parti CPP. Depuis le début de la crise anglophone, il y a 3 ans, plus de 400 personnes ont déjà bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires devant les tribunaux sur ordre du président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Bénin, une dizaine de formations politiques de l'opposition et celles qui soutiennent le président Patrice Talon ont été invitées hier en dialogue politique le 10 octobre. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la présidence. Le Bénin connaît depuis avril dernier une crise politique. Tous les partis, à l'exception des deux qui soutiennent M. Talon, ont été empêchés de prendre part aux législatives et des violences post-électorales ont eu lieu dans plusieurs localités, faisant plusieurs morts dans la seule ville de Cotonou.
En Côte d'Ivoire, condamnation hier à 5 ans de prison ferme de Jacques Mangoua, président du conseil régional de Béké et vice-président du PDCI, l'ancien président Henri Konan Bédié. De Boaké, correspondance de Siriki Barreau.
La décision a été rendue par le tribunal de Boaké. L'homme était inculpé pour détention illégale de munitions de guerre sans autorisation administrative. Le 21 septembre dernier, plusieurs munitions d'armes de guerre et des armes blanches ont été découvertes dans l'une de ses résidences à Nguessankro, dans le département de Béoumi. Jacques Mangoua s'est défendu tout le long de ce procès qui a duré plus de 5 heures d'horloge de ne pas être le propriétaire des armes blanches et munitions retrouvées à son domicile. Malgré le plaidoyer de ses avocats, le procureur Brahima Bamba a fait un rapprochement entre les objets retrouvés et les affrontements interethniques qui ont eu lieu à Béoumi au mois de mai dernier. Des affrontements au cours desquels des armes de guerre ont été utilisées et où plusieurs personnes ont perdu la vie. Il a requis une peine d'emprisonnement de 5 ans, 5 millions de francs CFA d'amende et 5 ans de privation de droits civiques. Peine confirmée par le président du tribunal. Ses avocats entendent faire appel de cette décision. Au cours du même procès, le chargé de mission, Amani Moïse, a également été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois ferme et 200 000 francs CFA d'amende pour divulgation de fausses informations dans les médias en rapport avec la présente affaire. Plus tôt dans la journée, des centaines de manifestants avaient réclamé la libération du prévenu devant le palais de justice. La situation a également dégénéré dans certains endroits, notamment à Djebonoa, localité située à une dizaine de kilomètres de Boaké, bloquant la route internationale sur l'axe Abidjan-Boaké. Siri Kibaro, Boaké, VOA Afrique.
Et selon l'AFP, une personne a perdu la vie dans ses protestations près de Boaké.
Au Mali, le ministre de la Défense, Ibrahima Dahirou Dambélé, a annoncé hier soir que l'armée malienne a perdu 38 soldats dans l'attaque de 2 camps par des djihadistes en début de semaine. Le précédent bilan gouvernemental datant de mardi soir faisait état d'au moins 25 soldats tués et d'une 60aine portés disparus. Ce nouveau bilan confirme l'ampleur du revers essuyé par l'armée malienne lundi et mardi autour des camps de Boulkessi et de Mondoro, dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso.
La Tanzanie a une nouvelle fois assuré hier qu'il n'y avait pas de cas d'Ebola dans le pays, dénonçant des rumeurs que tout le monde devrait ignorer. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en garde leurs citoyens contre une telle possibilité. Le point avec Michel Joseph.
Il n'y a eu aucun cas confirmé d'Ebola en Tanzanie, a affirmé la ministre de la Santé, Umi Mwalimu, à Dar es Salaam. Elle a ajouté que les informations circulant sur la présence d'Ebola ici sont juste des rumeurs. Selon elle, depuis le début de l'épidémie de fièvre hémorragique en RDC voisine, son pays a identifié 28 cas suspects, dont 2 en septembre, qui se sont tous révélés négatifs. Mardi, le Royaume-Uni a dit qu'il était probable qu'une personne ait succombé à la fièvre Ebola en Tanzanie. Le département d'État américain a fait de même. Fin septembre, l'OMS avait déploré le manque d'informations des autorités tanzaniennes sur de possibles cas de contamination dans ce pays. Madame Mwalimu a reconnu que la menace était réelle en raison de la proximité avec la RDC. Elle a indiqué que les contrôles dans les aéroports et aux frontières terrestres sont renforcés et elle a appelé la communauté internationale à soutenir son pays dans ses efforts contre le virus Ebola.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a publiquement invité jeudi la Chine à enquêter sur son adversaire démocrate Joe Biden, alors qu'une initiative identique auprès de l'Ukraine lui a déjà valu l'ouverture d'une enquête au Congrès en vue d'une possible procédure de destitution. Le point avec Jean-Roger Bion.
Alors qu'il quittait la Maison-Blanche pour un déplacement en Floride, le président américain a déclaré aux médias que la Chine devrait s'intéresser à Joe Biden, qui pourrait être son adversaire à la prochaine élection présidentielle en 2020, et à son fils et homme d'affaires Hunter Biden. En réaction, le président démocrate de la Commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff, a jugé que le locataire de la Maison-Blanche avait rompu son serment de président demandant à la Chine d'enquêter sur Joe Biden. Cela dit, dans le cadre de leur enquête en vue de l'impeachment du président, les démocrates ont entendu à huis clos jeudi, pendant plus de 8 heures, Kurt Volker, qui fut envoyé spécial des États-Unis pour l'Ukraine jusqu'à sa démission la semaine dernière. Son témoignage a fourni des preuves abondantes montrant que pour obtenir une rencontre avec Donald Trump, il avait été demandé au président Zelensky qu'il enquête sur l'élection de 2016 et les Biden a affirmé à la sortie un élu démocrate Eric Swalwell. Ce fut un tout autre son de cloche du côté des Républicains pour qui l'audition à huis clos de M. Volker démontre qu'il n'y a eu absolument aucune pression sur Kiev. L'enquête devrait franchir un nouveau cap ce vendredi avec l'audition à huis clos de l'inspecteur général des services de renseignement, Michael Atkinson, qui a largement contribué à faire éclater l'affaire ukrainienne au grand jour.
L'Irak a vécu hier sa journée la plus sanglante depuis le début mardi de manifestations. 31 personnes ont été tuées dans des heurts entre protestataires et forces de sécurité. Irénée Herman Oumbo.
Parti de Bagdad, le mouvement réclamant des emplois pour les jeunes, le départ des dirigeants corrompus a gagné la quasi-totalité du sud du pays. Les autorités ont décrété un couvre-feu à Diwaniya et à Bagdad sans aucun effet. Hier, les blindés sont entrés en action dans la capitale pour faire reculer des milliers de protestataires. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles. La contestation a tourné en bataille rangée sur les principaux axes menant à la place Tahrir. Les manifestants assurent ne pas avoir de leader. Le mouvement est né sur les réseaux sociaux. Amnesty International a demandé aux autorités de Bagdad de cesser d'utiliser une force létale excessive, de rétablir la connexion Internet coupée dans une grande partie du pays et les réseaux sociaux toujours inaccessibles.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Minute Éco, Nani Talani.
Le budget 2020 du Libéria s'élève à 526 millions de dollars, soit une baisse de 36 millions de dollars par rapport à 2019. Il contient une série de mesures dont la réduction des salaires et avantages des principaux dirigeants et des fonctionnaires. Les salaires des membres de la Chambre des représentants seront réduits de 31%, ceux des sénateurs le seront de 36%, ceux des juges de la Cour suprême de 16% et ceux de tous les employés du pouvoir judiciaire et des entreprises publiques de 6%. En Guinée, l'énergéticien français Eiffage débutera bientôt les travaux de construction de la centrale hydroélectrique dans la préfecture de Pita, à l'ouest du pays, selon l'agence Ecofine. L'infrastructure sera d'une capacité de 40 mégawatts. Les travaux de construction du barrage sont prévus pour durer 6 ans pour un coût estimé à 84 millions d'euros. L'infrastructure est un barrage saisonnier, c'est-à-dire qu'elle ne pourra fournir de l'électricité que sur 6 mois chaque année en fonction de la disponibilité de l'eau. Pour terminer, l'île Maurice lance la première phase d'un système de train léger sur rail de 525 millions de dollars pour réduire les embouteillages. Le métro express sera opérationnel d'ici 2022 pour transporter près de 55 000 personnes par jour. La première étape de 13 km va relier Rosyle au centre de l'île à la capitale Port-Louis. Une autre ligne de 26 km reliera Curepipe à la capitale. Le réseau est construit par les sociétés indiennes Larsen et Toubro et est financé par une subvention de 275 millions de dollars du gouvernement indien et une ligne de crédit de 250 millions de dollars.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Salah au repos pour le prochain match de l'Égypte.
Oui, la star de Liverpool ne sera pas avec les Pharaons pour le match amical contre le Botswana le 14 octobre. J'ai parlé à Salah, je me suis mis d'accord avec lui sur le fait que c'est dans son intérêt et dans celui de l'équipe nationale qu'il se repose, a déclaré le nouveau sélectionneur Oussam Al-Badri. Cette annonce intervient quelques jours après une controverse sur la non-prise en compte des votes égyptiens pour la nomination du meilleur joueur FIFA de l'année. Mohamed Salah, qui n'a terminé que quatrième de ce vote, a changé sa bio sur Twitter, mentionnant jouer pour Liverpool, mais plus pour sa sélection. Le match contre le Botswana fait partie des préparatifs pour les qualifications de la CAN Cameroun 2021. Ce sera le premier match de Badri depuis sa nomination en septembre.
Le match amical RDC-Côte d'Ivoire a été délocalisé à Rouen.
Cette rencontre amicale était initialement prévue à Paris le 13 octobre. Les éléphants et les léopards s'affrontent dans le cadre de la journée FIFA. Avant ce match, les Léopards de la RDC feront face au Fenech d'Algérie le 10 octobre au stade Mustapha Thacker de Blida. Pour ces matchs amicaux, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Christian Zengi Mbembe, a retenu 26 joueurs, une liste marquée par le retour de l'attaquant Dieu Merci Mbokani et de Nekens Kebano de Fulham. Il a aussi fait appel à deux novices, Samuel Moutoussami de Nantes et Edo Kayembe d'Anderlecht.
Parti en Ouganda, 5 joueurs érythréens se sont enfuis.
5 joueurs de l'équipe nationale érythréenne de football sont portés disparus en Ouganda où ils disputaient un tournoi régional selon le Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est. L'organisation régionale n'a pas souhaité s'exprimer au sujet de rumeurs selon lesquelles les 5 joueurs se sont enfuis pour demander l'asile en Ouganda. En octobre 2015, le Botswana a accordé l'asile à 10 footballeurs érythréens qui en avaient fait la demande après avoir disputé un match de qualification pour le Mondial 2018. En 2012, 18 footballeurs érythréens venus participer à un tournoi ont demandé l'asile en Ouganda.
Manchester United et la Roma s'enlisent en Europa League.
Privés de Paul Pogba blessé, les Mancuniens n'ont ramené qu'un petit point d'Alkmaar. Après un triste 0-0, si l'AS Rome a marqué, elle, l'issue est la même pour la Louve avec un match nul 1-1 chez les modestes Autrichiens de Volksberg. Dans une des affiches de la soirée, Feyenoord a pris le dessus sur le FC Porto 2-0. Les Young Boys de Berne ont dominé les Rangers à domicile 2-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Washington a rouvert une ambassade à Mogadiscio il y a 28 ans. Les États-Unis avaient fermé leur chancellerie en pleine guerre civile en Somalie. La nomination d'un ambassadeur pour ce pays intervient à la suite de la mise en place en décembre dernier d'une présence diplomatique permanente à Mogadiscio, qui était rattachée à Nairobi. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Tunis l'ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Somalie, Ahmedou Ould Abdallah.
Écoutez, moi je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux qui vont au-delà de la Somalie. Les premiers sont liés à la situation dans la région. Donc l'entrée sud, la Somalie est à l'entrée de la mer Rouge, le détroit d'Aden, la situation qui prévaut au Yémen, les changements de développement politique en Éthiopie, mais aussi toute cette insécurité, plus la compétition commerciale des produits qui viennent de Chine, du Japon. Et il faut donc une sécurité, surtout que déjà à Djibouti, il y a toutes les présences militaires françaises, américaines, mais aussi chinoises, japonaises, allemandes, espagnoles. Je pense que pour des raisons stratégiques, commerciales et autres, la présence américaine devient une exigence en Somalie. Au-delà de ce point de vue, il y a aussi des alliés traditionnels des États-Unis, donc le Kenya et l'Éthiopie plus Djibouti. Ces trois pays ont besoin d'une stabilité en Somalie. Et la présence américaine devient une exigence dans ce contexte. Et le choix d'un ambassadeur qui a beaucoup d'expérience comme Yamamoto, à mon avis, confirme donc ce regain qui va au-delà de la seule Somalie.
L'ambassadeur Yamamoto parle d'un jour historique significatif qui reflète les progrès de la Somalie ces dernières années. Mais il n'y a pas eu assez de progrès.
Vous avez parfaitement raison. Sur le plan politique, il y a eu des progrès que les Somaliens se voient. Ils sont de plus en plus à Mogadiscio et de moins en moins à Nairobi ou à Addis Ababa. Il y a toujours les réfugiés du camp d'Abab, mais il y a quand même de plus en plus un président qui finit son mandat, un président qui se prépare à une réélection. Les Français appellent ça la méthode Coué. Donc, s'absenter ne règle pas le problème. On l'a fait de 1993 à maintenant. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faut continuer et aller au fond des problèmes. En particulier, les provinces les plus déshéritées sont celles qui fournissent le plus de combattants. Les gens n'ont pas d'avenir devant eux. Et donc, je pense que l'effort doit être, en particulier sur ces provinces, pour savoir comment tarir la source des financements. Je respecte les mentalités religieuses et politiques des gens, mais je pense que c'est une guerre plus d'économie, d'influence tribale et autres que religieuse.
Washington opérait depuis quelques années militairement. Est-ce que cette présence ne suffisait pas pour s'occuper de toutes ces questions?
Washington opérait depuis plusieurs années par des drones, par des opérations ciblées, beaucoup plus pour aider les pays de la région et la sécurité dans la région. Peut-être le résultat de ces opérations a amoindri ou a changé la force de frappe des différentes rébellions, en particulier les Shabab, qui sont une organisation structurée mais complexe en même temps. Le grave danger, c'est que l'instabilité est devenue pratiquement un business en Somalie. À long terme, les Shabab ne pourront pas continuer à déstabiliser leur pays et se déstabiliser eux-mêmes.
L'ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Somalie, Ahmedou Ould Abdallah.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Les réfugiés et retournés centrafricains installés à Gaoui, au nord-est de N'Djamena, la capitale tchadienne, mènent une vie difficile en raison du manque de structures socioculturelles et d'assistance. Un projet pour leur insertion sociale initié par des organisations humanitaires n'aurait eu que peu d'impact, selon notre correspondant André Kodmajingar.
Installés en 2013 sur le site de Gawihin quartier à la périphérie de N'Djamena, les réfugiés et retournés centrafricains font partie de plus de 6000 réfugiés urbains vivant à N'Djamena. Mais aujourd'hui, cette frange de la population désœuvrée semble être abandonnée par les autorités de N'Djamena et les organisations humanitaires. Les services sociaux de base sont quasi inexistants. Même les huttes de fortune construites à l'aide de bâches et les latrines semi-modernes sont la plupart tombées en lambeaux. Au micro de VOA Afrique, quelques-uns ont du mal à s'exprimer sur leurs conditions de vie.
Déjà là, on a bien traité. Mais maintenant, on a beaucoup souffert. Regardez comment nous sommes. Vraiment, on n'a pas envie de rester ici. Un serpent était rentré ici. Et puis, mon poulet, même deux fois.
J'ai vu beaucoup de filles qui sont allées chercher des hommes passe-partout. La moyen de vivre. Il y a des jeunes filles qui sont passionnées la grossesse. Ils ne reconnaissent pas l'homme qui a mis la grossesse.
Vous voyez, les bâches là sont déjà pourries. Ici, là, il n'y a pas une école publique, seulement le privé. Et le privé, là, ça demande de l'argent. À présent même, je n'ai pas fait d'inscription à cause de.
Pour aider ces personnes désœuvrées à se prendre en charge, un projet de résilience pour la réinsertion sociale a été piloté par une ONG partenaire du SR en 2017. Des loyers ont été payés pour 6 mois pour certains avec un petit fonds pour les activités génératrices de revenus. Malheureusement, c'est un échec. Après les 6 mois, les bénéficiaires n'ont plus de moyens et préfèrent revenir sur le site. Fatima Adawai est la présidente des femmes retournées de la Centrafrique.
Elle nous a donné 70 000, 75 000. Elle est allée diviser aux radios qu'elle nous a bien servi 75 000. Tu payes l'école, tu achètes les cahiers, les tenues pour les enfants et comment tu vas vivre avec ça. Et puis dès que nous sommes ici dans le sud, pas d'assistance. Dans notre pays, on est en train de souffrir.
Pour l'administrateur principal chargé de protection du SR au Tchad, si le système d'assistance mis en place pour insérer ces personnes vulnérables ne règle pas le problème, l'OSR sera obligé de les déplacer dans un autre camp à l'intérieur du pays. Kinyandui Boniface Macharia.
Le but de ce projet était d'insérer les réfugiés et les retournés tchadien dans la ville de N'Djamena. Et à travers cette activité économique, il devait se prendre en charge. Donc, si cela n'a pas réussi, il y a toujours la possibilité. Nous avons au-delà des 14 camps ici au Tchad, on peut les transférer au camp. Et au camp, il y a tous les services disponibles.
Selon de bonnes sources, le camp de Gawi, qui abrite aujourd'hui environ 4000 réfugiés centrafricains, est rattrapé par la pression démographique et qu'il sera fermé dans les jours à venir. André Kodumadjingar N'Djamena, VO Afrique.
Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
C'est la rentrée scolaire pour de nombreux enfants sur le continent africain, mais tel n'est pas le cas pour plus de 2 millions d'autres. Suite à la fermeture de plus de 9000 écoles en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon une étude de Save the Children, quelques 44 000 enseignants ne retourneront pas non plus dans leur classe, ajoute l'ONG. Pour davantage de détails, Claire Morin-Gibour a joint la spécialiste éducation pour l'ONG Save the Children, San Long.
Je pense qu'aujourd'hui, nous avons en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale une situation qui est plutôt alarmante. Travaillant dans le domaine de l'éducation, nous avons fait le suivi sur ces chiffres et sur la détérioration de la situation sécuritaire à travers ces pays, encore plus alarmante. Et aujourd'hui, nos réveils, étant donné la rentrée scolaire qui arrive, avec plus de 2 millions d'enfants qui ne pourront pas retourner à l'école. Et nous estimons qu'il y a encore plus de 12 millions qui sont en besoin d'assistance en éducation en situation d'urgence pour ne pas perdre accès à l'éducation aujourd'hui.
Alors, on peut parler de la situation au Burkina Faso, par exemple. Vous avez compté la fermeture de plus de 2000 écoles en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Est-ce que la situation burkinabé vous inquiète particulièrement?
Oui, la situation au Burkina Faso est d'autant plus alarmante. Nous travaillons avec le gouvernement et les partenaires humanitaires pour faire le suivi sur la fermeture des écoles. En mars cette année, on comptait 900 écoles qui étaient fermées. Et en vue en perspective de cette rentrée scolaire qui arrive, on compte plus de 2024 écoles qui sont aujourd'hui fermées. Le gouvernement du Burkina Faso estime que ce chiffre sera revu à la hausse avec la rentrée scolaire qui arrive. Nous voyons également sur place l'occupation des écoles par des déplacés internes qui fuient les villages suite à la violence et qui n'ont pas accès à des abris d'urgence. Ils utilisent donc les écoles comme des infrastructures d'abri, empêchant donc des milliers d'enfants d'utiliser les écoles pour leur apprentissage.
Est-ce que d'autres pays de la région font face aux mêmes difficultés?
Oui, exactement. Aujourd'hui, on voit le Cameroun, où il y a plus de 4500 écoles qui sont fermées. Le Nigeria, le Mali, le Niger qui font face aux mêmes défis avec une détérioration de la situation sécuritaire. Les enseignants qui ne peuvent plus rejoindre les salles de classe suite à la violence ne sont plus disponibles sur place et donc qui ont entraîne justement la fermeture des écoles, mais également l'éducation qui devient cible des attaques dans certaines zones à haute insécurité.
Et que préconise votre ONG Save the Children pour tenter d'améliorer la situation?
Aujourd'hui, c'est vraiment de prioriser l'éducation en situation d'urgence dans toutes les réponses humanitaires et vraiment un gros plaidoyer envers tous les donateurs, les bailleurs de fonds, les acteurs humanitaires, pour assurer suffisamment de financements qui sont attribués à l'éducation en situation d'urgence. Et en parallèle, un travail avec le gouvernement pour la mise en place et le respect de la déclaration sur la sécurité dans les écoles afin d'assurer la continuité de l'éducation pour tous les enfants en zone de conflit.
San Long, spécialiste éducation du Bureau régional Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de l'ONG Save the Children.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc, a entrepris un programme de formation de 60 000 personnes pour pallier l'actuelle pénurie de récolteurs de la sève d'EVA. Ainsi, des camps de formation sont mis en place pour éduquer les aspirants producteurs de caoutchouc quant aux nouvelles techniques de cette pratique agricole. Reportage de Blanche Sanou.
Le village d'Abiou Travo, dans la localité de Sikensi, au nord-ouest d'Abidjan, abrite la première école des seigneurs dont les stagiaires, âgés de 18 à 40 ans, sont venus des quatre coins du pays pour apprendre le métier. Muni de ses outils, le formateur Sylvain Kona donne des cours à ses élèves habillés en uniforme et chaussés de bottes.
La formation se passe sur 40 jours ouvrables, pratiquement 2 mois. Et cette formation est basée sur 2 aspects. Nous avons la formation qui se passe à l'école sèche. L'école sèche, c'est ce que vous voyez derrière moi. Cette école-là, nous allons couper les arbres quelque part et nous venons installer ces arbres-là. Cette école, l'école sèche, si on peut dire ainsi, c'est l'initiation.
L'EVA occupe une place importante au sein du secteur agricole ivoirien car il contribue significativement aux recettes d'exportation. Les agriculteurs sont bien conscients de la nécessité de garantir la présence continue d'une main-d'œuvre bien formée. Leur nombre insuffisant pourrait compromettre l'ambition de la Côte d'Ivoire de hisser sa production de 624 000 tonnes en 2018 à plus d'un million de tonnes en 2020. Albert Conan est le secrétaire exécutif du Fonds pour le développement de la culture du caoutchouc.
C'est ça notre challenge. Il faut que nous les formions dans les 3 ans qui viennent pour qu'au fur et à mesure que les parcelles vont rentrer à l'âge de rapporter de l'argent, les planteurs ne souffrent pas parce qu'il n'y a pas en face les seigneurs qu'il faut pour mettre à la récolte leurs plantations.
L'association des professionnels du caoutchouc naturel va financer ce programme de formation à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Même si les cours mondiaux de l'EVA ont chuté, le métier de seigneur reste bien payé. Un professionnel qualifié peut toucher jusqu'à 200 000 francs CFA par mois, un très bon salaire dans le monde rural ivoirien.
Quand les gens saignent, ils gagnent un peu d'argent. Moi aussi, je veux faire pour aider mon mari aussi, pour qu'on s'avance devant.
Le caoutchouc ivoirien est reconnu pour sa qualité sur le marché international. Des associations de producteurs de l'EVA espèrent donc un appui de l'État pour restructurer le secteur via une exonération fiscale, estimant qu'il permet de lutter contre le chômage et la pauvreté dans le monde rural, freinant ainsi l'exode vers les villes.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU. Après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.